Gustave Mirbeau. Les 21 jours d'un neurasthénique. Chapitre 1. L'été, la mode ou le soin de sa santé, qui est aussi une mode, veut que l'on voyage. Quand on est un bourgeois cossu, bien obéissant, respectueux des usages mondains, il faut, à une certaine époque de l'année, quitter ses affaires, ses plaisirs, ses bonnes paresses, ses chères intimités, pour aller, sans trop savoir pourquoi, se plonger dans le grand tout. Selon le discret langage des journaux et des personnes distinguées qui les lisent, cela s'appelle un déplacement. Terme moins poétique que voyage, et combien plus juste. Certes, le cœur n'y est pas toujours. À se déplacer, on peut même dire qu'il n'y est presque jamais. Mais on doit ce sacrifice à ses amis, à ses ennemis, à ses fournisseurs, à ses domestiques, vis-à-vis desquels il s'agit de tenir un rang prestigieux. Car le voyage suppose de l'argent, et l'argent, toutes les supériorités sociales. Donc, je voyage, ce qui m'ennuie prodigieusement. Et je voyage dans les Pyrénées, ce qui change en torture particulière l'ennui général que j'ai de voyager. Ce que je leur reproche le plus aux Pyrénées, c'est d'être des montagnes. Or, les montagnes, dont je sens pourtant, aussi bien qu'un autre, la poésie énorme et farouche, symbolisent pour moi tout ce que l'univers peut contenir d'incurable tristesse, de noir découragement, d'atmosphère irrespirable et mortelle. J'admire leurs formes grandioses et leurs changeantes lumières, mais c'est l'âme de cela qui m'épouvante. Il me semble que les paysages de la mort, ça doit être des montagnes, et des montagnes, comme celles que j'ai là, sous les yeux, en écrivant. C'est peut-être pour cela que tant de gens les aiment. La particularité de cette ville où je suis, et dont l'excellent Baedeker, pince sans rire allemand, chante en des lyrismes extravagants la sublime beauté idyllique, tient en ceci qu'elle n'est pas une ville. En général, une ville se compose de rues, les rues de maisons, les maisons d'habitants. Or, à X, il n'y a ni rue, ni maison, ni habitants indigènes. Il n'y a que des hôtels, 75 hôtels, énormes constructions, semblables à des casernes et à des asiles d'aliénés, qui s'allongent les uns les autres, indéfiniment, sur une seule ligne, au fond d'une gorge brumeuse et noire, où tout saute et crachote sans cesse, ainsi qu'un petit vieillard bronchiteux, un petit torrent. Ça et là, quelques étalages installés au rez-de-chaussée des hôtels, boutiques de librairies, de cartes postales illustrées, de vues photographiques de cascades, de montagnes et de lacs, assortiment d'alpenstock et de tout ce qu'il faut aux touristes. Puis, quelques villas éparpillées sur les pentes, et au fond d'un trou, l'établissement thermal qui date des Romains. Ah oui, des Romains. Et c'est tout. En face de soi, la montagne, haute et sombre. Derrière soi, la montagne, sombre et haute. À droite, la montagne, au pied de laquelle un lac dort. À gauche, la montagne toujours, et un autre lac encore. Et pas de ciel, jamais de ciel au-dessus de soi. De gros nuages qui traînent d'une montagne à l'autre leur pesante masse opaque et fuligineuse. Si la montagne est sinistre, Que dire de ces lacs? Oh, ces lacs, dont le bleu faux et cruel, qui n'est ni le bleu d'eau, ni le bleu de ciel, ni le bleu de bleu, ne s'accordent avec rien de ce qui les entoure et de ce qu'ils reflètent. Ils semblent peints, ô nature, par M. Guillaume Dubuff, quand cet artiste, aimé de M. Lègue, s'élève jusqu'aux vastes compositions symboliques et religieuses. Mais peut-être pardonnerai-je aux montagnes d'être des montagnes et aux lacs des lacs, si, à leur hostilité naturelle, il n'ajoutait cette aggravation d'être le prétexte à réunir, dans leurs gorges rocheuses et sur leurs agressives rives, de si insupportables collections de toutes les humanités. À X, par exemple, les 75 hôtels sont surbondés de voyageurs, et c'est à grand-peine que j'ai pu enfin trouver une chambre. Il y a de tout. Des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Russes et même des Français. Tous ces gens viennent là, non pour soigner leur foie malade et leurs estomacs dyspeptiques et leur dermatose. Ils viennent là, écoutez bien ceci, pour leur plaisir. Et du matin au soir, on les voit, par bandes silencieuses ou par files mornes, suivre la ligne des hôtels, se grouper devant les étalages, s'arrêter longtemps à un endroit précis et braquer d'immenses lorgnettes sur une montagne illustre et neigeuse qu'ils savent être là, et qui est là, en effet, mais qu'on n'aperçoit jamais, sous l'épaisse muraille plafonnante de nuages qui la recouvre éternellement. Tout ce monde est fort laid, de cette laideur particulière aux villes d'eau. À peine une fois par jour, au milieu de tous ces masques épais et de tous ces ventres pesants, j'ai la surprise d'un joli visage et d'une svelte allure. Les enfants eux-mêmes ont des airs de petits vieillards. Spectacle désolant, car on se rend compte que partout, les closes bourgeoises sont en décrépitude. Et tout ce qu'on rencontre, même les enfants, si pauvrement éclos dans les marais putrides du mariage, c'est déjà du passé. Hier soir, j'ai dîné sur la terrasse de l'hôtel. À une table voisine de la mienne, un monsieur causait bruyamment. Il disait « Les ascensions ? Eh bien, quoi, les ascensions ? Je les ai toutes faites, moi qui vous parle. Et sans guide ?» Ici, c'est de la blague. Les Pyrénées, ça n'est rien du tout. Ça n'est pas des montagnes. En Suisse, à la bonne heure, je suis allé 3 fois au Mont-Blanc, comme dans un fauteuil, en 5 heures. Oui, en 5 heures, mon cher monsieur. Le cher monsieur ne disait rien. Il mangeait, le nez sur son assiette. L'autre reprenait. Je ne vous parle pas du Mont Rose, ni du Mont Bleu, ni du Mont Jaune, ce n'est pas malin. Et tenez, moi qui vous parle, une année, au grand Sarah Bernard, j'ai sauvé 3 Anglais perdus dans la neige. Ah, si j'avais prévu Fashoda! Il disait encore des choses que je n'entendais pas bien, mais où revenait sans cesse « Moi, moi, moi !» Puis il invectivait le garçon, renvoyait les plats, discutait sur la marque d'un vin, et, s'adressant de nouveau à son compagnon, « allons donc, moi, j'ai fait plus fort, moi, j'ai traversé, à la rame, en 4 heures, le lac de Genève, de Teurité à Genève. Oui, moi, moi, moi !» Ai-je besoin de vous dire que ce monsieur était un vrai Français de France. La musique des tziganes m'empêcha d'en entendre davantage, car il y a aussi la musique des tziganes. Vous voyez que c'est complet. Alors, que puis-je faire de mieux, sinon vous présenter quelques-uns de mes amis, quelques-unes des personnes que je côtoie ici tout le jour. Ce sont pour la plupart des êtres, ceux-ci grotesques, ceux-là répugnants. En général, de parfaites canailles, dont je ne saurais recommander la lecture aux jeunes filles. J'entends bien que vous direz de moi « Voilà un monsieur qui a de drôles de connaissances !» Mais j'en ai d'autres qui ne sont pas drôles du tout et dont je ne parle jamais parce que je les chéris infiniment. Je vous prie donc, chers lecteurs, et vous aussi, lectrices pudiques, de ne pas m'appliquer le célèbre proverbe « Dis-moi qui tu hantes !» Car ces âmes, dont je vous montrerai les physionomies souvent laides, dont je vous raconterai les peu édifiantes histoires et les propos presque toujours scandaleux, je ne les hante pas au sens du proverbe. Je les rencontre, ce qui est tout autre chose, et n'implique de ma part aucune approbation. Et je fixe cette rencontre pour votre amusement et pour le mien sur le papier. Pour le mien. Ce préambule, afin de vous expliquer que mon ami Robert Hagemann n'est pas mon ami. C'est quelqu'un que j'ai connu jadis, qui me tutoie, que je tutoie, et que je revois de loin en loin, par hasard et sans plaisir. Vous le connaissez aussi d'ailleurs. Mon ami n'est pas un individu, mais une collectivité. Large feutre gris, veston noir, chemise rose et col blanc, pantalon blanc avec le pli médian bien marqué, souliers de cuir blanc, ils sont sur les plages et dans les montagnes. Ils sont en ce moment 30 000 comme Robert Hagemann, dont on peut croire que le même tailleur a façonné les habits et les âmes. Les âmes par-dessus le marché, bien entendu, car ce sont des âmes d'une coupe facile et d'une étoffe qui ne vaut pas cher. Ce matin, comme je sortais de la buvette, j'aperçus mon ami Robert Hagemann. Toilette matinale d'une irréprochable correction, et qui n'étonnait pas les admirables platanes de l'allée. Arbre éminemment philosophe, et qui en ont vu bien d'autres depuis les Romains. Fondateur de bains élégants et capteur de sources mondaines. Je feignis, tout d'abord, de m'intéresser passionnément aux manœuvres d'un cantonnier qui, armé d'une casserole, puisait de l'eau dans le ruisseau et la répandait ensuite à travers l'allée sous le prétexte fallacieusement municipal de l'arroser. Et même, afin de donner à mon ami le temps de s'éloigner, j'engageai avec le cantonnier une conversation sur l'étrangeté pré-édilitaire de son appareil. Mais Robert Hagemann m'avait aperçu, lui aussi. « Ah, par exemple » fit-il. Il vint à moi plein d'effusion et me tendant ses mains gantées de peau blanche. « Comment c'est toi? Et qu'est-ce que tu fais par ici ?» Il n'y a rien tant que je déteste comme de mettre les gens dans la confidence de mes petites infirmités. Je répondis « Mais je viens me promener, et toi ?»« Oh, moi, je viens suivre un traitement, c'est le médecin qui m'envoie ici. Je suis un peu démolie, tu comprends ?» L'entretien prit tout de suite un tour banal. Robert me parla de Paul Deschanel, qu'on attendait pour le lendemain, du casino, qui n'était pas brillant cette année, du tir au pigeon, qui ne marchait pas, etc. « Et pas de femme, mon vieux, pas de femme !» conclut-il. « Où sont-elles cette année ? On ne sait pas, sacrée saison, tu sais !»« Mais tu as la montagne !» m'écriai-je, dans un enthousiasme ironique. « C'est admirable ici, c'est le paradis terrestre. Regarde-moi cette végétation, ces phlox, ces leucanthèmes qui atteignent la hauteur des êtres, et ces rosiers gigantesques qui semblent avoir été rapportés d'on ne sait quel pays de rêve dans le chapeau de Monsieur de Jussieu. Que tu es jeune.
Je m'exaltais. Et les torrents, et les glaciers. Alors, tout cela ne te dit rien ?
Tu m'amuses, répondit Robert. Est-ce que vraiment j'ai l'air d'un bonhomme qui donne dans ces bateaux-là ? On ne me monte pas le cou avec les torrents. Et qu'est-ce qu'il y a là d'épatant, la montagne ? C'est le Mont Valérien, en plus grand, voilà tout, et en moins rigolo.
Tu aimes mieux la mer, alors ?
La mer ? Qu'est-ce que tu dis là ? Mais, mon petit, depuis 15 ans, tous les étés, je vais à Trouville. Eh bien, je peux me vanter d'une chose, c'est de ne pas avoir regardé la mer une seule fois. Ça me dégoûte. Ah non, je crois que j'ai autre chose dans la cervelle que d'aller m'épater à ce que tu appelles les spectacles de la nature. J'en ai soupé, tu sais.
Enfin, tu es venu ici pour ta santé. Suis-tu au moins un traitement ?
Sévèrement, fit Robert. Sans ça...
Et qu'est-ce que tu fais ?
Comme traitement ?
Oui.
Eh bien, voilà. Je me lève à 9 heures, promenade dans le parc, autour de la buvette, rencontre de celui-ci et de celle-là, on respire un peu, on raconte qu'on s'embête, on débine les toilettes, cela me mène jusqu'au déjeuner. Après le déjeuner, partie de poker chez Gaston. À 5 heures, casino. Station autour d'un baccarat sans entrain. Des pontes de 4 sous, une banque de famille. Dîner, re-casino, et c'est tout. Et le lendemain, ça recommence. Quelquefois, un petit intermède avec une Laïs de Toulouse ou une Frinée de Bordeaux. Oh là là, mon pauvre vieux. Eh bien, le croirais-tu ? Cette station si vantée, qui guérit toutes les maladies, ça ne me produit aucun effet. Je suis aussi démolie qu'à mon arrivée. De la blague, ces eaux thermales.
Il renifla l'air et il dit
« Et toujours cette odeur. Sens-tu ? C'est ignoble. »
Une odeur d'hyposulfite échappée de la buvette circulait parmi les platanes. Mon ami reprit.
« Ça sent comme... pardier, ah, quel souvenir ! Ça sent comme chez la marquise !»
Et il se mit à rire bruyamment. Figure-toi, un soir, nous devions, la marquise de Tunbridge et moi, dîner au restaurant.
« Tu te rappelles, la marquise, cette grande blonde avec qui j'ai été 2 ans ?»«
Non, tu ne te rappelles pas ?»
Mais mon vieux, tout le monde sait ça à Paris.
Enfin, n'importe. Qu'est-ce que c'était que cette marquise ? Demandai-je.
Une femme très chic, mon vieux. Ancienne blanchisseuse à Concarneau. Elle était devenue, par la grâce de je ne sais plus qui, marquise. Et marquise de Tunbridge encore. Et une intellectuelle, je ne te dis que ça. Eh bien, donc... Au lieu de dîner au restaurant, comme c'était tout d'abord convenu, la marquise, une lubie, aima mieux dîner chez elle. Soit, nous rentrons chez elle. Mais, à peine la porte refermée, une odeur épouvantable nous suffoque dans l'antichambre.
« Nom de Dieu !» dit la marquise.
« C'est encore ma mère. Jamais je ne la déshabituerai de ça !» Et furieuse, elle se dirige vers la cuisine. La noble mère était là, qui trempait une soupe aux choux.
« Je ne veux pas que tu fasses la soupe aux choux chez moi. Je te l'ai dit 20 fois. Ça empeste l'appartement.
Et si j'avais ramené un autre homme que mon amant, de quoi aurais-je eu l'air avec cette puanteur de cabinet ? Est-ce compris, enfin ?»
Et se retournant vers moi, elle ajouta «
On dirait, nom de Dieu, que tout un régiment de cuirassiers est venu péter ici. »
Il devint tout mélancolique à ce souvenir, et il soupira.
C'était tout de même une femme épatante, tu sais, et d'un chic.
Et il répéta,
« Eh bien, cette odeur qui vous poursuit ici, me rappelle la soupe aux choux de la mère Tunbridge. C'est la même chose.
Le souvenir de la marquise devrait t'aider à la mieux supporter, dis-je.
Et lui tendant la main, « Allons, meilleure santé, j'interromps ton traitement. »«
dis donc !» appela Robert.
Mais j'avais sauté dans la pelouse et j'avais mis, entre mon ami et moi, l'épaisseur d'un énorme Wellingtonia.